En entrevue avec la directrice générale et archiviste du Centre d'archives de la Rivière-du-Nord, Mme Linda Rivet. Mme Rivet, bonjour.
Bonjour.
La survie de l'organisation est menacée en raison d'un financement qui est à nouveau revu par le gouvernement provincial. Dites-nous quel est le nœud du problème, Mme Rivet.
Oui, donc, ces dernières années, il y a eu énormément de coupes au niveau de Bibliothèques et Archives nationales du Québec. Les enveloppes budgétaires qui sont gérées par ce qu'on appelle BANQ et provient du ministère de la Culture et des Communications. Et ces dernières années, on le sait qu'en culture, il y a eu énormément là, de coupures. Et là, tout dernièrement, on s'est attaqué plus précisément au centre d'archives agréées qui se situe généralement là, dans les régions du Québec. Alors, cette enveloppe-là, qui devait être revue et que nous espérions être augmentée, a plutôt été revue à la baisse et il y a des nouveaux critères. Ils ont revu le programme et plutôt que de favoriser justement une meilleure gestion pour les services d'archives agréées, on a préféré amener de nouvelles directives qui font en sorte que c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à du financement. Et comme en culture, le financement est déjà très difficile et pratiquement, particulièrement pour les archives, il y a très, très peu de programmes disponibles là, auxquels on peut faire, on est admissible. Alors, cette refonte du programme met en péril directement la situation de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord et son centre d'archives, mais aussi, je vous dirais, ça met en péril toute cette vocation-là pour tous les petits centres d'archives agréés à travers le Québec qui ont cette vocation de conserver les archives locales et régionales dans notre région.
Vous êtes 39 organisations, 39 centres d'archives agréés. Selon les normes du programme actuel, on prévoit un financement pour 25, c'est bien cela?
Oui, exactement. Donc, même la refonte du programme fait en sorte que le gouvernement pourrait agréer 50 centres d'archives au total, mais va soutenir financièrement seulement 25 d'entre eux. Et ce n'est pas basé là sur la région à laquelle on appartient, par exemple. Ça va vraiment être basé sur la performance. Donc, plus on fera d'acquisitions d'archives, de traitement d'archives et de diffusion d'archives, plus nos chances seront grandes d'être parmi les 25 centres d'archives agréés. Par contre, si pour différentes raisons, on avait de la difficulté à obtenir de bons résultats, ou même si on obtient de bons résultats, on s'entend, on devient 50 organismes en compétition. Donc, c'est sûr qu'on va tous vouloir performer au maximum, mais il y en a seulement 25 qui vont être les premiers, et 25 autres qui vont avoir travaillé très fort, mais qui malheureusement n'auront pas accès à du financement.
C'est un cercle vicieux, puisque bon, les sociétés qui ne profiteront pas de financement vont devoir concentrer leurs énergies, leur travail à développer d'autres sources. On peut penser à des activités privées, donc elles ne pourront plus nécessairement axer leur travail vers le mandat premier d'acquisition, de traitement et de diffusion d'archives.
Oui, exactement. Pour être centre d'archives agréé, il y a de nombreux critères. Entre autres, bon, avoir des locaux qui répondent à des normes minimales pour la conservation, utiliser du matériel archivistique de qualité pour la préservation, engager du personnel professionnel et être ouvert 25 heures par semaine minimum au public. Donc, ça, c'est la base pour être un centre d'archives agréé. Et notre mission première, justement, est de rendre accessibles les archives qu'on acquiert. C'est notre objectif de faire connaître tout ce beau patrimoine, tous ces trésors qu'on a chez nous, dans notre région. Donc, effectivement, on pourra pas, si on doit assurer les salaires à la base, on devra développer d'autres activités, des activités secondaires, des projets particuliers qui font connaître nos archives, oui, ou qui offrent des services à la population pour du traitement d'archives, par exemple, dans les milieux privés ou en organismes, mais pendant ce temps-là, ça devient très difficile de développer notre mission première et d'être au service de la population, puisque on doit trouver des moyens alternatifs pour aller chercher du financement et s'assurer de garder nos emplois.
Quel serait le financement idéal pour le Centre d'archives de la Rivière-du-Nord?
Bien, depuis longtemps, au niveau du réseau des services d'archives privés agréés, on milite pour que l'enveloppe soit augmentée, évidemment, et qu'un montant de base correspondant à environ 50 000 $ qui assurerait vraiment là, au niveau des fonctions de la mission première de la Société d'histoire, c'est ce qui serait un montant, je vous dirais, de base idéal. Par la suite, effectivement, le reste de notre financement, on va le chercher autrement, mais c'est ce qu'on souhaiterait recevoir du gouvernement du Québec, ce type de réinvestissement-là à la base de 50 000 $ par service d'archives privées agréées.
Dites-moi, Mme Rivet, parlons maintenant du Centre d'archives et de la Société d'histoire. La Rivière-du-Nord, donc, dispose d'une Société d'histoire depuis un petit peu plus de 50 ans. C'est énormément de matériel historique. Ça peut représenter quoi, les archives de la Rivière-du-Nord?
Ici, on a plus de 60 mètres de documents textuels. Donc, ça occupe 3 locaux complets. En plus des journaux locaux qu'on a acquis au fil des années, entre autres lorsque le journal L'Écho du Nord a fermé, on a récupéré tous les journaux papier. On a aussi le Mirabel, entre autres, et plusieurs autres journaux locaux qu'on a conservés ici en format papier qui sont accessibles pour la population. On a aussi plus de 120 000 documents iconographiques, donc des photographies, des affiches, des négatifs de journaux, mais aussi des photographies d'individus lors d'événements dans nos petites municipalités ici de la région. Ça peut représenter, ça peut témoigner le développement de la ville de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, les Basses-Laurentides. Ça développe, ça témoigne tout de notre vie en société. Au niveau des photographies, depuis environ les années, je vous dirais, là, nos plus vieilles images pourraient dater des années 1860, mais la majorité, là, à partir de 1895 jusqu'à aujourd'hui. Au niveau des documents textuels, on a parmi les plus anciens date de 1820 et jusqu'à ce jour encore, on a entre autres les archives de la Compagnie Roland. Donc, quelqu'un qui voudrait comprendre tout le fonctionnement de cette compagnie-là, et on sait qu'il y a de nombreuses familles de Saint-Jérôme, mais des environs aussi, qui ont travaillé à la Compagnie Roland, autant ici à Saint-Jérôme que du côté de Mont-Roland-Sainte-Adèle. On pourrait découvrir, mieux comprendre l'histoire de cette compagnie-là. On a aussi des archives de famille, des familles importantes qui ont développé notre région. Je pense entre autres à la famille Prévost, mais aussi de plus petites familles qu'on connaît peut-être moins, mais qui ont eu quand même des implications marquantes puisqu'ils sont des familles fondatrices d'une municipalité. Je pense entre autres à la famille Juteau où on a dernièrement procédé au traitement et qui témoigne des débuts de Saint-Hippolyte. Donc, il y a comme ça plein de petits trésors dans nos archives qui témoignent de la vie culturelle, de la vie politique, de la vie en société ici à Saint-Jérôme, les compagnies, les industries. Donc, puis quand je dis Saint-Jérôme, c'est vraiment le grand Saint-Jérôme, puisque notre champ d'acquisition est principalement là, la MRC de la Rivière-du-Nord, donc Saint-Hippolyte, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, Prévost et Saint-Jérôme.
Avec cette description exhaustive du matériel que possède le Centre d'archives et la Société d'histoire, dans un scénario catastrophique, si le financement venait à manquer, si on devait cesser des activités, tout ce matériel historique serait rapatrié à Montréal, c'est bien ça?
Malheureusement, pas tout. Je pense entre autres aux journaux locaux. ça serait pas envoyé à Montréal. Il n'y aurait pas d'intérêt d'avoir les journaux locaux puisqu'ils ont microfilmé de nombreux journaux. Donc, pour eux, du côté de Montréal, de BANQ, c'est ce support-là qui serait favorisé, alors qu'on sait que le support papier est tout de même encore aujourd'hui très pratique, très utile. Donc, tout ce matériel-là serait complètement perdu. Puis par la suite, au niveau des fonds d'archives, je vous dirais que pour tout ce qu'on a, il y a assurément 50% qui ne serait pas conservé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec parce que ça ne représenterait pas pour eux un intérêt suffisant. Alors que pour notre région, c'est inestimable la valeur de ces archives-là.
Le drame est tout entier en sens que même si BANQ conservait certaines de vos archives, c'est la région tout entière, c'est toute la MRC Rivière-du-Nord qui perdrait, qui serait dépossédée de sa mémoire, de son histoire.
Oui, tout à fait. Bien, ça fait en sorte aussi qu'on n'a plus de service de proximité, donc on n'est pas capable de maintenir le service d'archives agréées dans la région. Ça fait en sorte que les citoyens doivent se déplacer jusqu'à Montréal pour y avoir accès. Il y aurait effectivement aussi une perte en partie de notre mémoire collective, ce qui, je crois, en soi est un drame. On le voit là, ces derniers temps, à quel point les gens réalisent que l'histoire de leur famille, l'histoire de leur municipalité, ça leur tient à cœur et ils tiennent à ce que ça reste en région, justement.
Sentez-vous une mobilisation dans la MRC pour sauvegarder, pour trouver des solutions, des pistes pour financer le Centre d'archives et la Société d'histoire?
Les citoyens, oui, on sent vraiment un soutien de la part des citoyens. On souhaite que ça continue, justement, notre objectif est de sensibiliser, justement, la population et leur dire, vous savez, des archives, c'est silencieux. Souvent, ça passe inaperçu et pourtant, c'est en arrière de tout. C'est en arrière d'une exposition, c'est en arrière d'un livre, c'est en arrière d'une pièce de théâtre, mais c'est en arrière aussi de nombreux travaux, même en urbanisme. Les archives sont à la base de travaux qui se réalisent à tous les jours. Les décisions qui sont prises dans une municipalité par nos politiciens sont basées sur des archives, sur des décisions passées. Donc, il y a vraiment, on sent que les gens prennent conscience de plus en plus de cette réalité-là. Par la suite, il y a tout un travail qui reste à faire avec nos députés de la région des Laurentides, parce que je pense que c'est les deux centres d'archives agréés des Laurentides qui sont menacés, puisqu'il y a aussi un centre d'archives du côté de Mont-Laurier, et puis ils sont dans la même situation que nous. Donc, c'est de mobiliser justement nos députés. C'est ce que nous, on est en train de faire, mais si le message vient de la population, je crois que ça sera encore plus fort. Nous, ça fait longtemps qu'on leur dit que c'est important. On transmet ce message-là avec passion. Mais si, en plus, il y a une mobilisation citoyenne, je crois que le message va être encore plus fort. Et c'est ce que le gouvernement doit entendre. Malgré le fait que des archives, on les voit, mais on ne se rend pas compte qu'elles sont là. Bien, je pense que si la population lance un message fort, ça ne pourra plus être ignoré.